Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors au programme d'aujourd'hui, c'est théâtre, théâtre, théâtre. Aujourd'hui, nous recevons pour le mois de la pire espèce au Théâtre aux Écuries, Francis Monti et Olivier Ducasse, les deux co-directeurs du Théâtre de la pire espèce. Donc, on va parler de quatre spectacles qui vont se passer pendant ce mois de mars. Ensuite, nous parlerons avec l'auteur-compositeur-interprète Edgar Bory pour les derniers jours de son spectacle Garnaud Bory au Théâtre Outremont. Et pour finir, avec Mathieu Tessier, nous faisons une critique de la pièce Les Murailles qui se joue en ce moment au Théâtre de la Licorne. Pour l'instant, partons en musique avec Fretz qui nous chante Fait divers.
J'ai ma guitare, quelques livres, la musique autour de moi, je regarde la neige. Et la neige tourne autour de moi, le paysage, les passants et les oiseaux au-dessus des toits. Je regarde le ciel, et le ciel est rempli d'étoiles. Yeah. 8h du matin, le soleil me réveille. Je prends mes Nike avant de partir. Yeah. Je dois marcher dehors, putain, on se les gèle. J'aurais mieux fait de rester dormir. Merde, j'ai arrêté de compter les moutons, pas comme les bergers. Plus honte de ma peur maintenant que j'ai appris à les berger. Arrêtez d'attendre les solutions, je vais les chercher. Yeah, yeah. Non, aujourd'hui je veux plus être personne. Non, aujourd'hui je regarde les passants. Pour une journée j'ai besoin de me perdre seul. Pour une journée j'ai besoin d'être absent. J'ai ma guitare, quelques livres, la musique autour de moi, je regarde la neige. Et la neige tourne autour de moi, le paysage, les passants, les oiseaux au-dessus des toits, je regarde le ciel. Et le ciel est rempli d'étoiles. Je sais poteau, des fois la vie est morose, mais on fait avec, même si c'est pas grand chose. Et puis ce n'est pas grave si tu fais rien de grandiose. Vaut mieux être à l'aise et savoir quand prendre une pause. Et bref là c'est l'hiver et y'a beaucoup de neige. J'ai ma chanson à finir et j'ai un album à faire. Mais aujourd'hui je suis pas le même, j'ai décidé de me taire. J'ai du temps à la finir, c'est pas grave si j'en perds. Non aujourd'hui je veux plus être personne. Non aujourd'hui je regarde les passants. Pour une journée j'ai besoin de me perdre seul. Pour une journée j'ai besoin d'être absent. J'ai ma guitare, quelques livres, la musique autour de moi, je regarde la neige. Et la neige tourne autour de moi, le paysage, les passants et les oiseaux au-dessus des toits, je regarde le ciel. Et le ciel est rempli d'étoiles. J'ai ma guitare, quelques livres, la musique autour de moi, je regarde la neige. Et la neige tourne autour de moi, le paysage, les passants et les oiseaux au-dessus des toits, je regarde le ciel. Et le ciel est rempli d'étoiles. Pourquoi on se casse la tête alors que la vie c'est si simple? C'est si simple, on s'invente une planète où il n'y a plus de contraintes, ce serait si dingue. J'ai ma guitare, quelques livres, la musique autour de moi, je regarde la neige. Et la neige tourne autour de moi, le paysage, les passants, les oiseaux au-dessus des toits, je regarde le ciel. Et le ciel est rempli d'étoiles. J'ai ma guitare, quelques livres, la musique autour de moi, je regarde la neige. Et la neige tourne autour de moi, le paysage, les passants, les oiseaux au-dessus des toits, je regarde le ciel. Et le ciel est rempli d'étoiles.
Alors bonjour, nous sommes avec Francis Monti. Bonjour Francis.
Bonjour.
Alors vous êtes co-directeur du Théâtre de la pire espèce, vous écrivez aussi et vous jouez.
Exact.
Eh ben c'est bien.
Ben, c'est pas mal.
Un homme orchestre. Alors, on va parler de... Alors, donc, ça se passe au Théâtre aux Écuries.
Oui.
Il y a quatre spectacles pendant ce mois de mars.
En effet.
Trois, d'après ce que j'ai lu, c'est trois nouveautés et une reprise.
Oui, c'est ça.
La reprise, elle est chez vous ou chez...
Oui, tout se fait ici aux Écuries.
D'accord.
Oui, c'est ça, la reprise, c'est Percé. Ça, c'est un spectacle qu'on a créé en 2005.
Alors, on en parlera... Pas avec vous.
Parfait.
Avec vous, je vais parler de votre écriture et celui dans lequel vous jouez dans Jimmy Jones.
Exactement,
l'histoire à finir de Jimmy Jones et de son camion céleste. Alors, je vous laisse nous en parler.
Oui, eh bien, c'est un spectacle en fait qui est né petit à petit, c'est-à-dire qu'on a créé une courte forme. Ça fait déjà 7-8 ans, je ne saurais dire avec précision. Ça faisait au départ 15 minutes.
D'accord.
C'est né de différents laboratoires de recherche qu'on faisait. Il y a cette forme-là qui est apparue, qu'on aimait bien et qu'on a développée. Puis ça finit par faire un 20-25 minutes. Puis là, ben, maintenant, ça fait un spectacle d'une heure et vingt. C'est un spectacle qui s'est construit par vignettes. Alors, c'est vraiment des petites scènes, un peu comme les certaines BD. Je pense, par exemple, à Charlie Brown. Où,
ah oui.
Où on a laissé trois cases, il y a trois cases, et puis on a un récit, puis la trois cases d'après, on a les mêmes personnages, le même univers, mais c'est pas nécessairement une histoire qui suit.
Ah, d'accord.
Ouais, on a travaillé de cette façon-là au départ. Après ça, je vous dirais que c'était vrai dans le 25 minutes. Maintenant, sur le 1h20, ben, il y a quand même un petit fil qui finit par se développer. C'est l'histoire d'un père et d'un fils. Là,
D'un fils qui essaye de s'échapper de la présence un peu trop... un peu trop intense de son père. Enfin, c'est
exact,
ce que je crois comprendre.
Ouais, tout à fait.
Est-ce que ça sent le vécu?
La présence étouffante. Non, pas vraiment. Non. Parce que non, mon père était pas du tout comme ça. J'ai réglé mon cas avec mon père dans un spectacle. Alors, non, là, c'est plutôt... ce père-là, pour moi, représente plutôt une certaine malitude... difficile à respirer d'une certaine époque, d'où cette
ah, oui.
idée de placer ça dans les années 50. Après ça, bon, moi, j'étais jeune, je suis né en 71, mais malgré tout, il y avait encore des traces de cette manière-là d'exister en tant qu'homme où il n'y avait pas tellement de... Tu pouvais pas tellement sortir du chemin, je dirais.
Oui, c'est vrai.
Après, surtout moi qui venais de la région, peut-être que c'était encore plus exacerbé là, dans certains milieux, dans ces milieux-là. Et alors, c'est ça. Fait qu'à la fois, il y a ce sujet-là, donc cette relation-là du père et du fils, mais aussi avec peut-être tous les autres hommes là, qui entourent le personnage du père. Mais en même temps, il y a quand même un certain humour, parce que, comme je le disais, on s'est inspiré vraiment de cette idée des comic books, de la bande dessinée. Alors, il y a un certain trait, parfois une caricature sympathique. On travaille avec, nous, du théâtre d'objets. Hein, ça veut dire que donc ça crée automatiquement une distance. Il y a un certain ludisme là, inhérent à la forme elle-même.
Alors, justement, on va parler... Alors, vous allez l'entendre sur deux sujets. Et je dis ça aux auditrices et aux auditeurs. Et puis, il faudra aller voir au Théâtre aux Écuries les dates pour aller entendre... assister à ces spectacles-là. Et dans les contes zen du potager, ça m'a... rien que le titre m'a beaucoup fait rire, déjà.
Ah oui, mais je pense que vous allez parler des contes zen avec mon collègue, par contre.
Ah, d'accord.
Ouais.
Alors vous, c'est lequel autre?
Alors, l'autre, c'est Léon le Nul, en fait. Bon,
Léon le Nul, d'accord.
Ouais, ouais, ouais. Alors là, Léon le Nul, on est sur une forme tout à fait différente. Avec Jimmy Jones, sur un théâtre d'objets, deux acteurs sur scène, on travaille sur une petite table. Là, Léon le Nul, c'est un acteur, c'est un solo, c'est un acteur seul en scène. Pas d'objet cette fois. Il y a une chaise là, mais c'est pas mal tout ce qu'il y a, une bouteille d'eau. Et c'est un texte que j'ai écrit moi en 2005, qu'on avait coproduit à l'époque avec le théâtre d'aujourd'hui, Bouche décousue et La pire espèce. Et c'était Martin Dion, l'acteur à l'époque, qui avait produit qui avait créé ce spectacle-là avec nous. Et j'ai eu envie de le réécrire après toutes ces années pour lui donner une forme différente. Il n'y avait pas de narrateur à l'époque. C'est-à-dire que le narrateur du récit était le personnage lui-même, Léon le Nul.
Léon le Nul, il est. On pourrait entendre que c'est un petit garçon qui ne fait pas grand-chose, du moins à travers l'école, mais c'est quand même un souffre-douleur.
Oui, c'est ça. C'est pas tant qu'il est pas bon à l'école, plutôt qu'il est nul parce que les autres enfants le qualifient de nul.
À la maison, c'est pas mieux.
À la maison, c'est pas tellement plus facile, non. C'est-à-dire, il se compare à son frère, puis son frère est un exemple de réussite, alors que lui, non. Mais il est protégé par sa mère, ça, il n'y a pas de souci. Surprotégé, je dirais même.
Oui.
Mais, alors, c'est ça, il essaye de se tailler une place dans ce monde-là. Ce qui l'embête le plus, je dirais, c'est son parcours pour se rendre à l'école. C'est là qu'il se fait agacer, embêter par les autres enfants. Alors, il a trouvé un truc, en fait, c'est qu'il va manger des clous pour se transformer en train.
D'accord.
Il va se transformer en locomotive, tout en métal, invincible, qui va très vite. Alors, c'est les péripéties de cet enfant-là. J'ai une imagination débordante et un peu étrange, peut-être.
Ah non, pas du tout, mais quand j'ai lu « Il mange des clous », je me suis dit peut-être que c'est une expression que je connais pas et que ça veut dire autre chose.
Ah ben non,
c'est
non.
C'est pour ça.
Non, lui,
c'était littéral.
Il est assez littéral là-dessus. Mais on est dans une espèce d'univers une espèce de réalisme magique là, inspiré là, de certaines œuvres d'Amérique du Sud, où il y a quelque chose d'assez concret qui se mélange à des éléments un peu comme ça, merveilleux. Alors son frère, par exemple, vend du chocolat, il vend tellement de chocolat qu'il se rend en limousine et parfois en montgolfière à l'école. Alors il n'y a pas de problème, il ne se fait pas embêter par les autres enfants.
Ah, j'aurais aimé ça, moi, aller en montgolfière à l'école.
Oui, et Léon aussi, mais ça ne marche pas. Et là, ben c'est ça, là, c'est vraiment une performance. Hein. C'est un acteur seul en scène qui nous fait tout voir, les décors, qui interprète plus de 15 personnages.
Oui.
Il signe l'espace, il nous permet de voir les lieux, la gare, le train qui passe, le pigeon qui est dans la gare du train. Il va faire toutes les voix des personnages et tout ça se fait en un clin d'œil. Je dirais une espèce d'inspiration de Philippe Cobert, l'acteur du Théâtre du Soleil, là, qui a fait toute une série de spectacles autour justement de son expérience au Théâtre du Soleil, où il était seul en scène, puis il nous fait revivre toute la troupe. Peut-être aussi ce que pouvait faire Dario Fo là, à une époque. Alors c'est le corps de l'acteur est extrêmement investi et par des fois des signes très subtils va nous faire vite comprendre que c'est un autre personnage qui parle, un changement de voix, un changement de rythme, un changement de position, puis tout apparaît devant nos yeux.
Mais si tu veux, il dure combien de temps celui-ci?
Alors ça, c'est une heure.
Une heure?
Une heure, oui.
Alors, on va dire, avant de terminer l'entrevue, que l'histoire à finir de Jimmy Jones et de son camion, c'est au mois de mars. Donc là, c'est le 9 et le 10.
Commencé, ah,
ça a déjà commencé, donc le 4, le 9 et le 10. Il reste ce soir et demain?
Non, plus que ça. On joue cette semaine, on joue la semaine prochaine encore. Là.
D'accord.
Parce que la semaine prochaine, on va être en programme double avec Condzen parfois. Alors là, il faut aller voir sur le site du Théâtre de la Pire Espèce ou des écuries.
Je me suis pas mis sur le calendrier. Je suis allé le voir avant, mais je me suis pas mis sur le calendrier.
C'est un peu complexe.
Et Léon Lenul joue plus tard dans le mois de mars.
Exactement, Léon Lenul, là, ça va être à la fin du mois de la Pire Espèce aux écuries, le 25-26.
Voilà, donc là, les dates sont bonnes. Alors, ne ratez pas ça, parce que l'un comme l'autre, même pour Léon Le Nul, c'est humoristique aussi dans sa façon de faire.
Ah oui,
parce que c'est votre marque de fabrique, c'est votre marque d'écriture.
Normalement, oui, c'est ça. Il y a un aspect dramatique dans les deux spectacles, mais aussi il y a un ludisme qui correspond, qui appartient oui, à la pire espèce, c'est clair.
Et vous jouez dans lequel?
Moi, je joue dans Jimmy Jones.
Voilà. On vous demande ce que vous faites comme rôle?
C'est moi qui fais le père insupportable. J'adore ces personnages.
Je sais pas pourquoi, je m'en doutais un petit peu. Alors, merci beaucoup. En tout cas, ça va être très fort à aller voir. Alors, n'hésitez pas, allez sur le Théâtre aux Écuries, regardez le calendrier et puis allez vous amuser pendant tout ce mois. Voilà. Merci à vous.
Merci.
Et puis, vous vouliez dire quelque chose, excusez-moi?
Non, j'allais vous remercier.
Ah d'accord, donc on va partir en musique et puis après ça va être au tour de votre co-directeur.
Tout à fait.
Merci, bonne chance.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Il avait vu d'avance les failles même les plus sombres. Il m'a suivi comme une ombre pour entrer chez moi et tout prendre. Moi je l'avais vu d'avance, la beauté au milieu des bombes, kamikaze en pleine conscience. Sans regarder, j'ai couru, j'ai pris la chance. Je voulais vivre avec lui toute la nuit entière.
Alors, nous voici maintenant avec Olivier Ducasse. Bonjour, Olivier.
Bonjour.
Alors, autre histoire, on va partir. Donc, on en a parlé avec Francis, Théâtre aux Écuries, le mois du Théâtre de la Pire Espèce. Donc, quatre spectacles. On a parlé des deux dont il s'occupe. Maintenant, on va parler des deux autres. Et on va commencer avec ce que je lui disais tout à l'heure. Je m'étais un peu trompé. C'est les contes zen du potager. Rien que le titre m'a déjà beaucoup fait sourire.
Oui, les contes zen du potager, c'est un spectacle, en fait, donc qui prend appui sur des contes traditionnels zen, donc des contes du Japon, de l'Inde, bon, vraiment des contes traditionnels. Oui. Et on les traite avec le théâtre d'objets, en fait, on les présente, on est deux sur scène. Et ces contes-là, en fait, ils traitent toujours c'est toujours un peu la relation maître-élève. Hein? C'est le maître qui utilise ce conte humoristique pour déstabiliser...
L'élève et pour lui faire comprendre plus loin. Que le bout de son nez.
Ben, parce que des fois, l'élève travaille trop fort hein, pour trouver pour trouver la voie, l'illumination et tout. Donc, en fait, c'est une façon de faire sortir de lui-même, ou en tout cas de lui défroncer les sourcils d'une certaine façon, et qui est comme une révélation, mais par l'humour aussi.
C'est beau, ça, lui défroncer les sourcils. Ça, c'est une expression que je me permettrais de reprendre.
Et donc, c'est ça. Donc, nous, en fait, le titre, les contes du potager, en fait, c'est que chacun des contes, il y a 9 contes dans le spectacle qui dure 50 minutes environ. Et dans chacun des contes, nous, on les a traités avec la nourriture, en fait. Il y a souvent des références à la nourriture, mais pas toujours. Mais nous, dans le fond, les personnages des contes ou les actions qui sont faites pour illustrer, si on veut, le sens profond du conte, c'est toujours avec la nourriture, donc des fruits, des légumes, qui servent à la fois de corps et d'image pour les contes.
et d'esprit, parce que ça va représenter un petit peu leur caractère, il paraît.
Exact. Donc on a des petites têtes de samouraï, des petits chapeaux de moine. Donc on les traite moins comme des. Il ne s'agit pas de faire des marionnettes avec les objets, mais c'est plutôt que c'est ça. On travaille sur des images, donc des images très fortes. Puis c'est comme si les images apparaissent. C'est qu'on est à la fois dans le spectateur voit apparaître les images par juxtaposition de ces fruits, ces légumes et des petites donc des petites têtes qu'on a, des ustensiles en bois qui sont magnifiques, qui sont formidablement sculptés. Donc c'est toute une sorte de spectacle tout à fait délicat hein, dans la forme et en même temps avec une sorte d'humour pince sans rire, j'ai envie de dire, qui appartient au conte. Donc c'est un court voyage. On ne sait pas trop si on est dans la cuisine ou si on est dans l'atelier ou si on est sur l'hôtel, en fait. Mais donc, on est un peu à tous ces endroits-là en même temps. Et Karine Saint-Arnaud et moi, qui jouons le spectacle, c'est comme si on se passe le relais, dans le fond, de qui est maître et qui est élève d'un conte à l'autre. Voilà.
Très intéressant. Et le deuxième, c'est Percé.
Oui.
Alors?
Percé. Donc, c'est un spectacle qu'on a créé en 2005, Francis en parlait tantôt, et qu'on a depuis ce temps-là tourné, repris, traduit, joué dans différents pays. Percé, c'est un spectacle donc qui met en scène trois personnages qui sont des archéologues du début du 20e siècle.
d'un début du 20e siècle un peu inventé, qui ont chacun un enjeu particulier. Ils cherchent un peu à se faire un nom, ils cherchent un peu à régler leur fantôme personnel, et ils découvrent petit à petit, en faisant de l'archéologie par correspondance, donc ils découvrent des morceaux de terre cuite spéciaux dans lesquels il y aurait des cellules vivantes. En tout cas, je passe
l'explication. Moi, alors, ce qui a été pas mon coup de cœur, mais ça me plaît, j'ai envie d'aller le voir aussi, c'est écrit: l'enquête scientifique se transforme peu à peu en kit enquête existentielle. À travers Percé, c'est leur propre visage que les savants tenteront de déterrer.
Voilà.
Alors, savants, j'ai lu ça, j'ai dit j'y vais.
Ben oui, c'est ça, c'est l'idée du mythe, en fait. Hein. C'est toute l'idée, dans le fond, oui. Parce qu'on a trois personnages qui sont effectivement des scientifiques, mais je mets des gros guillemets parce que leur méthode a à peu près rien de scientifique. Ils sont plutôt clownesques, en fait. C'est des personnages... C'est pas des personnages de théâtre avec une psyché complexe, c'est des personnages de théâtre près du clown, donc où on comprend très vite, en très peu de mots, en très peu d'actions, leurs enjeux personnels. Mais dans le fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, au contact du mythe, en fait, comment le mythe, en fait, agit sur nous. Donc, le point de départ, c'est ça, c'est-à-dire que dans un mythe, les mythes continuent de nous parler après des siècles et des siècles, parce qu'ils travaillent profondément dans la psyché humaine. Donc, nous, à travers ces trois personnages clownesques et leur contact par rapport au mythe de Percé, bien, c'est comme si on mettait en scène, finalement, cette action révélatrice du mythe chez nous, mais toujours avec cet humour, oui, ce décalage que nous permet le théâtre d'objets.
Et c'est bien parce que c'est comme ce qu'on croit pur et dur, qui n'est pas toujours vrai, et puis ce qu'on découvre.
Exact.
Et j'adore l'idée.
Puis ce qu'on découvre sur soi à travers l'objet, c'est drôle parce que d'une certaine façon, pour nous, c'est un vieux spectacle. On l'a écrit en 2005, mais en fait, il reste très accessible et
très actuel.
Mais c'est intéressant, c'est que ça nous parle aussi. C'est comme si ça parlait de la compagnie aussi. À force de travailler avec l'objet, c'est comme si nous, ça fait quand même plusieurs, ça fait 20 ans qu'on travaille avec l'objet. Oui. Puis cet objet-là a passé son temps à nous questionner, à nous révéler à nous-mêmes des voies d'écriture à emprunter. Donc, chacun de nos spectacles, si les gens qui vont venir voir les quatre spectacles, qui sont présentés d'ailleurs en programme double, ne manquez pas ça, en une soirée, vous pouvez voir deux spectacles à la fois.
Ah, super. Cool!
Oui, on fait du programme double avec une petite pause entre les deux pour changer les décors. Vous pouvez prendre un verre au bar du Théâtre aux Écuries. Vous pouvez amener votre verre dans la salle. Donc, on veut en faire un peu une fête de réouverture pour nous, pour du théâtre. Là. Puis, vous savez, les quatre spectacles, on peut avoir un passeport pour les quatre spectacles à 70$.
Ah oui.
Donc, les gens qui veulent découvrir ce qu'on fait, qui ne connaîtraient pas ce qu'on fait, vous pouvez voir tous les spectacles, les quatre, pour 70$.
Oui.
Faut profiter de l'offre, c'est rare qu'elle passe.
Ça vaut vraiment le coup.
Oui.
Vous êtes un excellent vendeur. Vous savez quoi? En plus de ça, on va pouvoir le rajouter, vendeur.
En plus, oui, c'est ça.
Non, mais c'est bien. Je vais venir aussi dans la salle. Je suis curieuse de voir la façon dont vous avez fait ça, puis les idées qui ont été choisies, quoi, parce que il y a des titres qui nous parlent, puis il y a des histoires qui sont assez intéressantes, à savoir comment elles vont être tournées. Vous êtes, est-ce que là-dessus, sur Percé, vous jouez aussi?
Alors, Percé, il y a Francis et moi-même qui jouons avec Nicolas Germain-Marchand.
D'accord.
C'est un spectacle qu'on a écrit donc à six mains. On était trois auteurs, Francis,
d'accord,
moi et Mathieu Gosselin, qui ont écrit ce spectacle en 2005. Puis là, c'est Nicolas qui reprend le rôle de Mathieu. Donc, on a un trio, deux duos et un solo pendant le mois de la pire espèce.
Ben dis donc, vous aurez bien travaillé votre mois de mars, vous pourrez vous reposer en avril.
On ne se reposera pas après. Non, je pense qu'on oublie des fois de se reposer. On a d'autres projets en chantier. Mais on est content de jouer. Je vous dirais qu'on est surtout content de pouvoir présenter des spectacles. Ça fait un an et demi qu'on est en création sur plein de projets. Mais là, la rencontre avec le public est quand même quelque chose d'assez agréable. C'est le sens de ce qu'on fait quand même.
L'ouverture est là. Alors, profitons-en au maximum avant qu'il y ait autre chose qui se passe. On ne sait jamais. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis, au plaisir de vous voir sur scène très bientôt.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, on va se quitter avec la chanson de Flore, Bombe.
Bombe à récidive, tâche toute la ville. Bombe à récidive, balaye toute ma nuit. Un paysage des plus opaques, je ne reconnais même plus. Les étoiles noircères tombent sur moi et sur les rêves qui ne seront pas. jeter un doux baiser au cou. Elle avait du charme, c'est bon à récidiver. Et sur ses lèvres, des promesses perdues. Et sur ses lèvres, des anges déchus. Ah, 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 ah. Où, vais-je dormir ce soir? Je traîne mes ailes.
Voilà, alors on a parlé théâtre, on continue avec... je rejoins Mathieu Tessier au téléphone et ensemble nous vous parlons de la pièce Les Murailles qui se joue en ce moment au Théâtre de la Licorne et que nous sommes allés voir hier soir. Restez avec nous, à tout de suite. Et après, on aura Edgar Bory.
Avec Arlette Farah.
La table est mise, la nappe est repassée, l'argenterie est polie et maman aussi. L'un en chemise, papa en cravate, il dangle, moi je m'en forme mon lendemain. Tout est comme notre belle famille sur la photo. Le vin rouge est carafé, le rôti porte même son tablier. Pourquoi il fait si froid? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas? Le silence me glace le dos. L'air est à trancher au couteau. Coup d'envoi en catapulte d'un gratin de premières insultes. Prise au piège, la volaille est au cœur du champ de bataille. Je n'arrive plus à respirer, j'ai juste envie d'hurler. Pourquoi il fait si froid? Pourquoi vous ne m'entendez pas? Vos cris me brisent les os. L'air est à trancher au couteau.
tranché au couteau. Pourquoi il fait si froid? Pourquoi vous ne m'entendez pas? Vos cris me brisent les os. L'air est à trancher au couteau.
Et voilà, on vient d'entendre l'excellente Jocelyne Baribeau qui nous chantait Portrait de famille, chanson fort bien choisie par Nicolas. Ouais. Salut Mathieu.
Salut Arlette, salut tout le monde.
Alors, écoute, on est donc, comme je le disais au micro tout à l'heure, nous sommes allés voir cette pièce hier,
oui,
soir, et... Eh bien, écoute, je vais te laisser en parler. Tu m'as récupéré 3 extraits, mais il y a 2 qu'on va écouter, qui vont nous situer un petit peu la pièce. Alors, peut-être qu'on écoute d'abord le premier, et puis ensuite, d'accord, on va en parler, d'accord?
Ben oui, avec...
Alors, le premier, c'est quand on pense que son père parle d'elle tout le temps, d'accord?
Ouais.
Allez.
Oui, tu fais quoi? À part être la fille à Mario?
Moi, je suis une curieuse. Je viens voir comment ça se passe.
Tu vas écrire un livre, ça a de l'air?
Les nouvelles vont vite. Je pensais être bonne pour garder ça secret.
Ton père t'a vendu.
Je suis tentée d'y en demander plus. La description de leur discussion, des détails. Y a-tu dit ça sur le fly en laissant croire que c'était un faux projet? Le genre de projet qu'on doit bien tout savoir à un moment donné, quand le désir d'écrire ses mémoires fait surface. Quand on est dans sa passe artiste au cégep puis qu'on dit qu'on travaille quelques vers. Y a-tu dit ça avec un ton de... Je comprends pas trop ce qu'elle fait dans la vie. Elle dit qu'elle est poète, mais ça doit pas. Y a-tu dit ça avec de la gêne? Comme ça y arrive parfois quand tu s'attends à ce que je réponde par ma job alimentaire à la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Y a-tu dit ça avec fierté? Comme quand tu m'écris qu'il m'aime puis qu'il pense à moi chaque jour dans mes cartes de Noël? Qui est fier de moi parce que je marche drette, même si l'univers entier est au courant que c'est pas grâce à lui?
Alors, ça vous donne déjà une petite idée de ce qu'est la pièce qui se situe à quel endroit, Mathieu?
C'est à Fermont, en fait. En fait, juste pour rapidement, pour ce qu'on vient d'entendre, c'est le livre, des extraits du livre audio que l'autrice, l'auteur est venue lire. Et on entendait aussi Philippe Cousineau qui est dans la pièce. Donc, tous les extraits que j'ai choisis viennent du livre audio. Et les comédiens que vous allez entendre étaient sur scène hier.
Oui, et ils le sont encore maintenant, puisque la pièce continue de jouer, et c'est pour vous inciter à aller la voir. Alors, nous n'avons pas la même vision de la chose. Moi, je viens de la France, c'est vrai. C'est une vie qui est... que je n'ai pas connue ou dont on ne m'a pas parlé. Enfin, on m'a parlé quand j'étais ici. Et le personnage du père, entre autres, parce qu'il y a des personnages très marquants dans cette histoire, j'ai envie de dire, je ne sais pas si je le dis aussi facilement que je l'ai dit hier soir à Mathieu, il me fait un peu Burke dans toutes ses façons d'être, de position, de mâle alpha un peu obscur, on va dire. Mais en même temps, c'est ce que Mathieu m'a fait remarquer hier au soir, de par le fait de l'écriture, c'est une fille qui parle de son père, ça le rend presque attachant. Voilà.
Oui, c'est ça, le personnage vit dans son propre monde, dans sa réalité, dans ses préjugés, dans ses jugements de valeur. Et comme tu disais toi-même, on finit par s'y attacher parce que c'est un texte presque autobiographique, ou du moins c'est écrit par une fille qui parle de son père. Donc, je pense que le côté attachant du personnage vient probablement du fait que les mots qu'on entend sont les mots d'une fille qui est allée, dans le fond, rejoindre son père pour savoir comprendre son père, comprendre
son absence, en fait.
Aussi.
Pourquoi il a été aussi absent de la maison? Qu'est-ce qui a pu le retenir à l'extérieur?
Exact.
De tout ça. C'est super bien écrit. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez en savoir un petit peu plus, dans l'émission de lundi 7 au quotidien, il y a une entrevue d'Hélène avec Erika Soucy qui en parle beaucoup plus encore que ce qu'on va faire. Mais nous, c'était pour vous dire qu'on a aimé. Voilà.
Oui, le texte, moi, connaissant le texte, J'ai toujours aimé l'écriture d'Éricus aussi. Je trouve qu'elle est capable en trois phrases, de passer d'une phrase poétique à une phrase qui nous tord le cœur, à nous faire rire avec une belle petite passe de joie. Et je suis sûr, ne t'a pas déplu, Arlette.
Non, et puis j'ai tout suivi parfaitement bien. C'est juste que mon écœurement venait des idées très... de la forme de chaque homme là-bas. leurs idées très... Comment je vais dire ça? Très carrées, très bourrines pour le père, des fois... Il y a des exemples de choses. On s'assoit pas là parce que d'autres se sont assis qu'on ne respecte pas, donc il faut aller s'asseoir.
Exact. Il n'y a pas que des mots tendres.
C'est un truc de fou complètement. D'ailleurs, à un moment donné, elle parle poésie avec quelqu'un qui n'a pas l'air de connaître la poésie, mais c'est tout à fait autre chose. Et c'est un moment qui m'a beaucoup fait rire aussi. C'est le troisième morceau, donc on va l'écouter si tu veux bien.
Ben oui.
Je l'aime bien, mon Conrad. Pendant le trajet, je le watch toujours un peu du coin de l'œil, par exemple, d'un coup qui s'étouffe avec le pied qu'il y a dans la bouche.
Fait que, comme ça, t'es poète.
On peut dire ça, oui.
Ben, tu l'es-tu ou tu l'es pas?
Oui, je le suis.
Ah.
C'est le fun que vous ayez dit poète. D'habitude, les gens qui connaissent pas trop ça, ils disent poétesse, quand c'est une femme.
Coutu, qui te fait dire que je connais pas ça?
Ah, rien. C'est vrai, j'ai pas de raison.
C'est qui ton préféré?
Mon poète, ça.
Non, ton gogo-boy! Ben oui, ton poète.
J'en ai plusieurs, je vous dirais, mais mon poème préféré, c'est « Nous » de Geneviève Desrosiers.
Connais-vous. Moi, c'est Jacques Beau, mon meilleur.
Ah ouais, hein? Je m'attendais pas à ça.
Oh, je l'ai suivi pas mal. J'étais là quand il a reçu le prix Grand Bois.
Shit! En quel honneur!
Mon ancien beau-père!
Ah, OK.
Pis quoi?
Ben, il est comment, Monsieur Bro?
T'es un esti de malade! Hey, c'est un Christ de bon écrivain. Oui, j'ai aimé sa fille comme jamais à part ça.
Ça a pas marché.
La distance, c'est comment ce que c'est? T'étais pas faite pour ça.
Je comprends.
Voilà, ça a été entre les moments émouvants et les moments qui me rendaient moi personnellement en colère dans les textes. Ça a été un moment qui m'a fait rire aussi.
Ça, c'était Philippe Cousineau qui jouait.
Extraordinaire.
Plusieurs personnages dans la pièce et Philippe Cousineau se retrouve à en jouer au moins trois, sinon quatre.
Et il faut dire que ils sont tous excellents, hein, tous ceux qui sont sur scène. Vraiment, félicitations à tout le monde. Mais c'était cette façon d'être et de ce côté mal que je déteste profondément, mais en même temps, c'était fascinant de le voir et d'écouter. Et à travers son écriture, je voyais tous les côtés. Ça me permettait de trouver des côtés féminins à chacun de ces êtres. Voilà, aussi.
En fait, Alors, les personnages étaient tellement bien campés on a passé une heure et demie à Fermont, dans le fond.
Oui.
Sur un chantier.
Mais allez voir.
Oui.
Allez
oui,
voir. Oui. Hein, Mathieu, on va pas en dire plus. Pour ceux qui connaissent ou qui l'ont déjà lu, comme ça avait été ton cas, eh ben, allez voir parce que ça vaut la peine. Et puis, pour ceux qui connaissent pas du tout, comme moi, ben, allez voir aussi. Parce que ça vaut la peine. Répétition. Alors, merci Mathieu.
Ça m'a fait plaisir.
C'était un plaisir de partager ça avec toi.
Voilà. Également, et à la prochaine. Et... On se revoit mardi, je pense.
Je pense. Donc, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Bye, merci beaucoup.
Bye.
Salut tout le monde.
On va écouter Edgar Bory qui nous chante « La vie est grande et le temps règne ». Parce que dans un instant, on l'appelle et on va parler avec lui des derniers jours de son spectacle Garneau et Bory au Théâtre Outremont.
La vie est grande, le temps règne, l'espace est beau, je vis, je meurs. La tendresse m'illumine, ma force douce me monte aux lèvres comme l'aéron pris dans le soleil. Je voudrais dire quelque chose de très doux. Je pourrais pleurer rien qu'à savoir ma vie vivante dans ta vie même. Je pourrais pleurer sans aucune gêne quand la beauté nous est donnée. Rien qu'à sentir la vie rentrer dedans la source du passé. jour est fait avec toujours. Je vis, je meurs dans la joie du. La mort nous veille dans son sang bleu. Et aujourd'hui est parfait à jamais. Je voudrais chanter des oiseaux plein la bouche pour célébrer, pour savoir ce que j'ai. Je pourrais pleurer de ne plus nous voir, imaginer ne plus y croire. Je pourrais rester avec ma peine, avec au cœur l'ombre et la haine. La vie est belle, le temps règne, l'espace est grand, je vis, je meurs, la tendresse nous illumine, la force douce nous monte aux lèvres, comme un héron pris dans le soleil. Je voudrais dire quelque chose de très doux.
Et voilà, comme promis, nous sommes avec Edgar Boy. Bonjour Edgar.
Bonjour à vous.
Ça va?
Ça va très bien. On est dans le théâtre, on est en train de finir les ajustements pour les micros, les voix et tout ça, puis on est très heureux.
Alors, ce sont les trois derniers jours du spectacle, c'est-à-dire 9, 10, 11 mars au Théâtre Outremont. Parlons de ce spectacle dont on a déjà beaucoup entendu parler, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est donc un spectacle qui est né d'une proposition de metteur en scène français.
Oui.
Qui était d'abord où Edgar a dit « hop, non ». Et après, quand on lui a expliqué que c'était des textes du poète Michel Garneau et qu'il les a lus, il a dit « ah oui ». Ça me correspond, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, ça faisait plusieurs années, mais avant que Michel Druza arrive avec la proposition des textes de Michel Garneau, qu'il connaissait, il était ami avec Michel Garneau et il avait monté des pièces de Michel Garneau. Michel Garneau écrivait aussi des pièces de théâtre. Donc, il m'a proposé ça. Et là, j'ai dit, bon, ben, écoute, on va essayer. Et puis, j'ai appelé Michel Garneau qui m'a dit, attends-moi un petit peu, je suis tellement content que tu veuilles remettre mes mots en vie sur la scène. Attends-moi 2-3 semaines, je vais te réunir des textes que je penserais qu'ils pourraient très bien t'aller. Alors, j'ai eu deux grosses piles. J'ai choisi à l'instinct, dans chacune des piles, ce qui, à première lecture, me parlait. Ensuite de ça, Michel est devenu un grand ami pendant les 4-5 dernières années de sa vie. Michel est décédé dernièrement, à l'automne dernier. Et donc, il n'y a aucune tristesse autour de ça. C'était tellement un bon vivant, un être généreux, chaleureux, extraordinaire, que je continue à le garder en vie à côté de moi et pour les gens qui viennent voir le spectacle. Donc, ce sont les trois dernières parce que ça devait avoir lieu, ça, pour le 50e anniversaire de la Nuit de la Poésie.
Oui.
Tenez-vous bien, le 27 mars 2020. ça fait deux ans de ça.
Oui.
Mais on a tous vécu ce qu'on a vécu, on le sait. Et puis, aujourd'hui, on se permet de faire trois petites représentations sur la grande scène du Théâtre Outremont, mais avec le public autour de nous sur la scène. Donc, ça a toujours été comme ça que le spectacle s'est donné. Donc, c'est une centaine de spectateurs maximum par soir. Voilà pourquoi on fait trois soirs.
Alors, je crois savoir, d'après ce que j'ai entendu et lu aussi, c'est qu'il y a quand même quelques petits changements qui vont avoir lieu sur cette scène. Les spectateurs sont toujours là, mais il y a du changement.
Oui, il y a un grand changement, c'est-à-dire que le metteur en scène, j'étais en France jusqu'à la semaine dernière, donc j'ai retravaillé avec le metteur en scène pour me remettre, comme on dit, en selle. Et puis là, on s'est rendu compte que 2 ans plus tard, l'interprète principal, qui est moi-même finalement, je suis plus le même. Puis les spectateurs, 2 ans plus tard, après 2 ans d'une vie complètement bousculée, ne sont plus les mêmes. Et on a fait une proposition où on a gardé exactement les mêmes mots, le même texte, le même enchaînement dans l'histoire, sauf que les gens qui auraient vu la première mouture ou les moutures des trois premières années vont complètement être surpris parce qu'il y a des choses très, très importantes qui ont changé au niveau de ce que j'appellerais de la mise en scène. En fait, c'est plus que de la mise en scène, c'est de la mise en liberté. La salle s'allume, je m'adresse aux spectateurs maintenant dans les yeux directement, comme s'ils étaient ma compagne perdue qui a anciennement était assise, c'était une spectatrice qui était choisie parmi la,
oui,
la,
voilà,
la,
c'est ça.
Les gens qui étaient assises à table devant moi et à qui je m'adressais pour une bonne partie des monologues ou enfin des dialogues. Donc là, elle n'est plus là. Elle est dans mon imaginaire. Elle est dans les airs. Elle est un peu partout et elle est dans chaque siège de chacun des spectateurs. Donc, il y a quelque chose vraiment qui change au niveau de la dynamique où les choses sont encore plus vraies que jamais, plus sensibles que jamais. Et c'est une expérience, vraiment. On ne sait pas ce qu'on va vivre ce soir parce que on l'a fait devant 4 comédiens en France, juste pour faire ce qu'on appelle un filage.
Oui.
Tout le monde était ravi, tout le monde était heureux, moi le premier. Et là, on va le faire devant plusieurs spectateurs. Donc, évidemment, ce soir, c'est une première pour nous. C'est une repremière et c'est très, très excitant parce que refaire toujours la même chose, ça peut devenir un petit peu automatique et, je dirais, moins précis. Alors que le travail que je fais avec ce metteur en scène-là depuis longtemps est de réinventer à chaque fois le mot qui vient, que je découvre à chaque fois, je ne sais pas ce qui s'en vient, même si je connais mon texte par cœur. Il faut que tout apparaisse comme si j'inventais ça sur place. Alors, c'est ça le travail qui est extraordinaire au théâtre, de renouveler à chaque fois, refaire sans jamais refaire.
Mais ce qu'on a omis de dire en parlant de mots, c'est que dans les textes de Michel Garneau, il y a des mots, il y a vos mots aussi qui sont mêlés.
Oui, c'est pour ça que ça s'appelle Garneau-Bory, parce que Michel Garneau, dans sa grande générosité, m'a permis non seulement de réécrire des mélodies sur des chansons qu'il avait déjà commises dans les années 80, ou même peut-être 70, mais il m'a permis de rajouter des mots dans ses textes, et j'ai glissé de mes textes. En fait, Garneau et moi, c'est comme mon grand frère, on est allé au même collège, on a quitté ce collège-là classique tous les deux à l'âge de 15 ans, lui en 1953, moi en 1968. Il y a quand même une différence dans le temps, il était pas mal plus audacieux que moi. En 68, pour ceux qui s'en souviennent, tout explosait sur la planète, c'était la révolte des jeunes cheveux longs avec les Beatles et tout. Mais en 53, quitter le collège classique, là, fallait le faire. Et donc... par contre, on a eu les mêmes jésuites professeurs, on a étudié les mêmes livres de français, parce que dans ce temps-là, c'était assez fixe et assez stable comme enseignement. Donc, à 15 ans d'écart, on s'est remémoré tout ça, et tout ça pour dire que je me suis rendu compte que dans son œuvre, dans son travail, il y a beaucoup de choses que j'avais déjà touchées en écriture qui faisaient écho à 15 ans d'écart de thèmes, qui sont des thèmes, évidemment, c'est l'amour, c'est la rencontre, c'est la perte, c'est la boisson, c'est la fête, c'est le mensonge et tout ça. Mais donc, j'ai alterné des textes à lui et des miens, des chansons aussi, qui sont des espèces de réponses, pas toujours une à côté de l'autre. Des fois, s'il y a une chanson sur, je dis n'importe quoi, moi, le viol ou l'inceste ou quelque chose comme ça, à quelque part, s'il a touché ça dans un texte, moi, c'est peut-être 6 pièces plus tard, peut-être 20 minutes plus tard que j'arrive avec ma réponse. Il y a une espèce de jeu d'aller-retour et les gens ne peuvent pas vraiment faire la différence. On a un programme, on dit qui a écrit quoi, mais ça reste quand même que tout ça se tient parce qu'on a un langage assez pareil, assez semblable, lui et moi. C'est du québécois qui n'est pas du joual cru, là, mais quand même, dans sa chanson d'amour de cul, là, je dois dire que ça parle fort. Ça touche des mots qu'on dit en cachette seulement d'habitude, mais lui, il a écrit ça en 1978-70. Il faut comprendre que l'Église prenait le bord, puis que c'était le lot des poètes de je dirais, de délier la parole, délier les langues, puis délier les interdits. Alors, ils ont fait ça comme des précurseurs, en fait.
Ben, vous le dites vous-même, c'était des phrases simples et touchantes pour reprendre vos mots, donc ça vous a presque appartenu tout de suite.
Oui, puis évidemment, il a fallu faire le travail de se mettre ça en bouche et puis de les apprendre, mais Michel, c'est pas de la poésie, je dirais, d'élite ou inaccessible.
Oui.
Il a fait des études sur la structure, puis sur tout ça, comment bousculer les formes. Mais la poésie de Michel, c'est plus une proésie pour la plupart du temps. Mais il sait utiliser des images et des choses qui nous réveillent, qui nous chatouillent, qui nous font plaisir. Donc, il va dire des choses très simplement. On n'a pas besoin de relire deux fois. Ou de réentendre deux fois les poèmes pour bien faire l'étude du français par les textes, comme on faisait lui et moi au collège, pour bien sûr savoir à qui appartient le sujet, le verbe et le complément dans des phrases assez complexes. Mais donc, c'est simple, c'est du langage de cuisine de tous les jours, qui dit, par exemple, je vais commencer avec le premier texte du spectacle où je m'adresse à une femme qui m'a quitté, qui est dans le vide.
Oui.
Je dis, il y a tellement de place où tu n'es pas là. C'est comme si je nageais dans ta présence. Alors, il y a quand même un style d'images qui ne sont pas de tous les jours. Tu sais, nager dans la présence de quelqu'un, c'est des mots très simples. Mais alors, tout le monde en
Mais il y a plein d'images qui viennent avec ça.
Ben oui. Il va dire, t'es pas en tresse assise à la table, t'es pas en fesses dans le gros soleil, t'es pas douceur pour le minou. Il jette sur moi, c'est un vrai fou, ça, ce chat-là. Et puis, c'est ce genre de dialogue-là qui passe en monologue, mais ouais. C'est un dialogue parce que les spectateurs sont là et la personne à qui je m'adresse, même dans le vide, elle ouais. est là et elle me répond avec des silences, mais moi, je l'entends.
Alors,
voilà.
Voilà, ben moi je vais vous souhaiter plein de bonnes choses pour ce soir et les deux soirs qui viennent. Comment vous vous sentez? Il nous reste une petite minute pour finir. Comment vous vous sentez à quelques combien? Deux heures du spectacle? Deux, trois heures
oui,
du spectacle?
Oui, c'est ça. En fait, ça fait deux ans, à part le oui. village que j'ai fait en France, qu'on n'est pas monté sur scène. À part un film qu'on a tourné qui va sortir à la fin du mois de mars et oui. au début avril. Mais il reste quand même que devant les spectateurs, ce qu'on appelle en présence vivante.
Ah, ça va être bien.
Ça va être très bien et c'est nourrissant. Et je dois dire que le travail que j'ai fait là-bas avec ce metteur en scène, ça a été un travail extraordinaire de mise en liberté. Je n'ai plus le trac. Probablement qu'il y a un âge pour lâcher le trac. En tout cas, c'est pas tout le monde qui est capable de s'en défaire. Moi, j'ai reçu le cadeau immense de ce metteur en scène
de ne plus l'avoir.
Les clés. Ben oui, c'est ça. Donc, je suis très heureux d'être là ce soir. Et merci beaucoup
Edgar,
de parler de ce spectacle. Puis on se reverra, nous.
Ben oui, bien sûr.
Oui, parfait. Très bien, Arlette.
Au revoir, Edgar.
Bye, merci.
Merci.
Bye.
Alors, on part en musique. Qu'est-ce qu'on écoute, Nicolas?
Eh bien, c'est une
Je te laisse le mot de la fin, t'as vu?
Elle s'appelle Eclo Bis. Et le titre de sa chanson, c'est Le monde change.
Eh oui, le monde change. Il faut le dire. Elle chantait. C'est parce que...
S'il est vrai que la colère vole nous lui couperont les ailes, je veux croire que le bon l'emporte dans cette course éternelle. L'image, mille mots, l'horreur est banalisée. Montrez-moi les beautés du monde, espoir pour l'humanité. Le monde change. Changer à lui seul l'humanité. Demain nous serons des milliers à avancer. Et j'avance. Je ne suis pas seule. Le monde change. Les esprits s'éveillent. Au-delà de l'inconscience, le monde change ses croyances, laisse ses vieilles dépendances et entre dans la danse. Personne ne peut changer à lui seul l'humanité. Demain nous serons des milliers à avancer. On avance ensemble. Nous ne sommes plus seuls. Le monde change.
Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Alors, que te dire, j'aime toutes les émissions que je fais, Nicolas, tu le sais. Mais là, aujourd'hui, je me suis éclatée en parlant théâtre tout le temps, j'adore ça.
Mais oui, c'est comme te revoir renaître de tes cendres en parlant théâtre.
si je pouvais tout recommencer, je ferais ça, metteur en scène de théâtre. J'adore, quel beau métier. Enfin, et pour ceux qui montent sur scène aussi... Donc, on dit merci à Francis Monti et Olivier Ducasse, parce qu'il faut aller voir ça au Théâtre aux Écuries, des spectacles qui, sous forme de sourire, nous donnent à penser quand même. Et puis, j'ai très envie de voir le travail qu'ils en ont fait. On dit merci à Mathieu Tessier, bien sûr, qui a partagé avec moi la critique de la pièce de théâtre Les Murailles. Et puis à Edgar Bory, donc ce soir, demain et après-demain. Merci beaucoup à toi, Nicolas Wartman, pour la technique et les chansons. Merci à vous toutes et vous tous de nous avoir suivis. Et puis, je vous dis à demain. N'oubliez pas que le spectacle Garneau-Boris est au Théâtre Outremont. Merci à vous toutes et à vous tous. Au revoir. Bonne soirée.